Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous. On continue à débattre évidemment des annonces d'Emmanuel Macron. C'est Laurent Neumann.
C'est bon Alexandre, faut que tu appuies sur ton micro.
Salut à tous, c'est Alexandre Devecchio.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Passe sanitaire au restaurant, dans le train, au cinéma, dans les commerces. Prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent, c'est notre question jusqu'à 14h. À 13h50, c'est bon à savoir, de l'info et de la bonne humeur avec Lisa Marie Marquez. On parle de quoi Lisa Marie aujourd'hui?
On va parler d'un véritable séisme à Saint-Émilion près de Bordeaux. Deux grands châteaux ont décidé de quitter le classement des grands crus et ça fait beaucoup de bruit.
Passe sanitaire, s'il vous plaît. Voici désormais ce qu'on va vous demander partout. Passe sanitaire au restaurant, au cinéma, dans le train, dans l'avion. Ce Graal du retour à la vie normale ne concernait jusqu'à présent que les grands rassemblements. Désormais, votre QR code vous sera demandé plusieurs fois par jour, qu'il s'agisse de la version papier ou la version numérique. Le prénom, le nom et la date de naissance du porteur y figurent. Le gouvernement précise d'ailleurs qu'un justificatif d'identité devrait être demandé pour éviter les fraudes. Il y aura des contrôles de passe sanitaire par des restaurateurs, des hôteliers, des responsables de salles de cinéma. Écoutez Olivier Véran ce matin, il a précisé qui allait contrôler qui.
Test PCR ou antigénique, l'un et l'autre, moins de 48 heures.
Qui contrôle? Est-ce que ça veut dire que chaque matin, en prenant son travail, il doit présenter un...
Oui,
un...
et c'est le responsable de la structure, de l'établissement qui reçoit du public, qui est responsable, qui est en charge de contrôler.
Ça veut dire que le patron des employés est responsable.
C'est lui qui doit vérifier que la personne qui vient travailler est en conformité avec la loi. Bien sûr, c'est du droit commun, ça existe, et il y aura des contrôles qui seront effectués, des contrôles qui seront nombreux, puisque c'est, je dirais, à ce prix-là qu'on arrive à éviter de fermer des structures. C'est à ce prix.
Une situation impossible selon certains commerçants qui n'ont pas envie de se transformer en contrôleur d'identité. Écoutez ce responsable d'une salle de cinéma, c'est à Cannes.
Ils ont commencé à le mettre en place là, pour le festival de Cannes. Là, on a pu voir quand on assistait à des séances au Palais. Et c'est vrai que ça faisait rajouter du temps déjà que il y a le temps de contrôle des tickets, mais si en plus on doit rajouter un pass sanitaire, c'est vrai que ça va être plus long. Il faudra que les clients anticipent ce temps et voilà, ça va demander une réorganisation, je pense, de nos séances.
Alors et vous, est-ce que vous êtes prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent, Laurent? Tu dis oui.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est provisoire. Dès que 90% des Français seront vaccinés, toutes ces mesures vont évidemment disparaître. Donc, c'est provisoire et on a tous intérêt à ce que les non-vaccinés aillent se faire vacciner le plus vite possible. C'est pour ça que je suis très heureux de voir que sur la plateforme Doctolib, on est déjà à 1 350 000 personnes qui ont pris rendez-vous, ce qui pour deux doses. Hein. Donc ça veut dire 2,5 millions d'injections en moins de 24 heures. C'est quand même un succès et j'espère que ça va aller vite. Comme ça, on sortira de ces mesures.
Elles ne sont pas encore administrées, les 2,5 millions. Je demande à voir.
Ouais, mais au moins on sera sorti de ces mesures une fois que tout le monde sera vacciné. La deuxième raison, j'entends ce propriétaire de cinéma, j'entends des propriétaires de restaurants, mais pardon, c'est mieux d'avoir un pass sanitaire en ce moment et pour une durée provisoire que d'avoir à refermer au mois de septembre. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Les cinémas qui ont fermé pendant des mois et des mois préfèrent sans doute quand même ouvrir avec cette contrainte que rester fermé. Troisièmement, si on pouvait en finir avec l'utilisation abusive de mots que je trouve honteux, j'ai entendu, y compris des responsables politiques, parler de dictature, d'apartheid, de totalitarisme, etc. Mais ils n'ont jamais été dans une dictature, ces gens-là. Ou alors, ils induisent les gens en erreur. Et il faut arrêter d'employer ces mots. Non, c'est pas la dictature de montrer juste un QR code et la carte d'identité. Voilà, c'est quand même pas très 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 compliqué.
Alexandre,
vous avez raison de dire que c'est pas la dictature, puisque c'est en nous enfermant dans une rhétorique comme celle-ci, on oublie de penser. La dictature n'est pas forcément le contraire de la démocratie. Enfin, c'est l'opposé extrême de la démocratie. Mais entre la démocratie et la dictature, il y a parfois la démocratie défaillante. Il y a parfois des principes auxquels on fait entorse, et c'est ce qu'on fait là. Je suis même pas sûr que ce soit pas retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors en France, c'est un organe politique, le Conseil constitutionnel, donc je pense que ça va passer. Mais enfin, dans un système...
Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, non mais je peux pas te laisser
on
dire ça.
On est en train d'instaurer...
C'est pas vrai, c'est si, pas bah, des organes
c'est,
politiques.
Excuse-moi, c'est pas des juristes, c'est des anciens politiques qui sont nommés là au bon vouloir du pouvoir politique. Donc pour moi, c'est un organe politique. C'est l'une des limites de notre démocratie, et on est en train d'organiser effectivement temporairement, j'espère, une citoyenneté à deux vitesses. Si Viktor Orban avait fait ça, monsieur, vous, Laurent Neumann, vous auriez poussé encore une fois des cris d'orfraie.
Donc, mais je pense que c'est quelque chose qui expliqué à ce micro que c'était patriotique d'aller se faire vacciner.
Je crois.
C'est pas moi, hein. C'est toi.
Oui, mais
donc les mauvais patriotes, c'est bien ceux qui ne sont pas vaccinés.
Qu'il ne faut
à tes
pas,
yeux.
Qu'il ne faut pas banaliser cela. Et ensuite, je crois que ça va créer quand même des tensions. On le voit, on a vu cet extrait de ce restaurateur qui ne sait pas comment faire, qui va devoir contrôler ses employés. On va peut-être avoir des gens qui vont dénoncer leurs voisins. Moi, je n'aime pas ce climat de division qu'on instaure dans le pays. D'autant plus que je ne suis pas certain que c'était urgent. On avait réussi le travail de conviction. On est parti d'une minorité de Français qui voulaient se faire vacciner. On en est à une majorité.
Et quand même pas en train de faire croire à ceux qui nous écoutent qu'on a réussi. On aurait donc réussi collectivement à s'adapter au confinement et à 250 jours de couvre-feu, mais on ne pourrait pas s'adapter au fait d'aller au restaurant en montrant un QR code.
Mais
c'est une blague.
Vous avez dit temporaire.
C'est une blague.
En tout cas, ça fait deux ans que ça dure. Donc ce n'est pas anodin et je pense qu'il va falloir retrouver le goût de la liberté après cette crise. Et voilà. Et encore une fois, c'est un. La loi sur le... Pardon, vous allez me dire que je change de sujet, mais la loi sur le séparatisme, on n'a pas visé l'islamisme parce que c'était une manière de discriminer, de créer une citoyenneté à deux vitesses. Et vous étiez le premier à défendre ce principe.
Et je vais te dire que tu changes de sujet.
Mais qu'est-ce que j'ai défendu, moi ? Qu'est-ce que j'ai défendu ?
Je pense que vous étiez l'un de ceux qui trouvaient que c'était normal qu'on ne discrimine pas, qu'on ne vise pas directement les islamistes.
Vous vous trompez totalement. Je pense qu'il faut être implacable avec le séparatisme. Comme ça,
non,
le débat.
Non, mais
ça clôt le débat.
Bon, allez, c'est un autre sujet. Je dois vous recadrer. Je suis dans l'obligation de vous recadrer, de vous remettre sur le débat du contrôle d'identité permanent. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, je vous rappelle notre question. Êtes-vous prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent pour nous répondre et nous écrire direction Twitter, Facebook et l'application RMC.
Et avant d'aller au 32-16, on est toujours avec Robert Sebag de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Robert, les contrôles, tu es prêt ?
Attention quand même au terme contrôle permanent d'identité. Hein. Je trouve que, en termes de... Le mot me surprend un
peu. C'est parce que le pass sanitaire va aller avec la carte d'identité, c'est pour ça.
On n'avait pas tellement le choix et c'est une manière aussi de pousser à la vaccination. Alors maintenant, je vais peut-être entraîner un certain nombre de critiques, mais c'est uniquement d'un point de vue médical et sanitaire. Je suis très sceptique sur le test sanitaire, sur la PCR, pas sur la vaccination. La PCR vous donne effectivement une vision immédiate. Vous êtes négatif, vous êtes peut-être en incubation, le lendemain vous pouvez être positif. Moi j'ai regardé ce qui s'est passé à l'euro. Ça me paraît extrêmement important d'un point de vue médical. Vous avez un certain nombre, plusieurs centaines de supporters finlandais, je vais être très très précis, qui sont allés voir leur équipe jouer à Saint-Pétersbourg où il y avait une explosion du variant Delta. Bien entendu, pour voyager, ils sont tous fait un test PCR qui était négatif. C'est la condition. Ils sont arrivés à Saint-Pétersbourg, ils ont vu le match, ils ont été dans les bars, etc. Une grande partie, 80%, sont revenus positifs. Ils n'étaient pas vaccinés, ils ont été contaminés et donc ils ont transporté le virus en Finlande. Donc, simplement pour dire...
Le PCR n'est pas un totem d'immunité.
Voilà, c'est pas un totem d'immunité complet. Je pense que c'est provisoire, mais que en y réfléchissant, c'est le pass vaccinal. Non, mais ça, c'est d'un point de vue médical.
Alors, c'est pas sanitaire qui pourrait devenir un pass vaccinal.
Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment le pass vaccinal.
Mais c'est pas possible de mettre en place aujourd'hui.
Je dis bien à terme, mais la réalité, ça sera
ça. On peut pas vacciner toutes les personnes en même temps. Vous créerez là réellement une inégalité profonde. D'autant plus qu'on a visé d'abord. Sans doute qu'on y viendra. On y viendra peut-être parce qu'à chaque fois, c'est une étape de plus.
Maintenant, ça pose quand même un certain nombre de questions. Je me pose la question sur les terrasses de cafés des restaurateurs. On a toujours dit qu'en plein air, le risque était très faible. Là, on n'a pas précisé si les contrôles auront lieu aussi en terrasse ou à l'intérieur des cafés.
Le gouvernement a dit terrasse aussi. Hein. Concernée. Hein.
Je me pose la question d'un point de vue médical. Je pense que là, on aurait pu être un peu plus ouvert. Deuxièmement, que se passera-t-il dans les restaurants d'entreprise, dans les cafétérias ? Oui. Est-ce que là, on va demander effectivement le pass à l'entrée de l'entreprise ? Pour les gens, là, ça pose quand même un problème qu'il faudra aussi régler au niveau des entreprises, surtout qu'aujourd'hui, Il n'y a plus le télétravail obligatoire, donc les gens vont se rendre dans les entreprises.
Alors,
et peut-être aller dans le restaurant.
Pour te répondre, les directeurs de cabinet des différents ministères concernés ont des réunions aujourd'hui. Il va y avoir des arbitrages sur la méthode. Et je rappelle que les projets de loi qui vont faire appliquer tout ça n'ont pas encore été présentés au Conseil des ministres et donc arriveront devant le Parlement. Et les modalités, tu as raison, le diable se niche dans les détails. Oui, donc on va en savoir plus dans les jours et les heures.
On va avoir de belles fiches kafkaïennes comme on en a vu au moment des attestations. Je pense qu'on va bien rigoler.
Ah, tu peux pas leur reprocher de travailler. Allez, on va au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. On est avec Kevin, qui est commercial, qui nous appelle de Laval. Bonjour Kevin.
Bonjour tout le monde, comment ça va bien?
Bah, ça va.
Et
plutôt
toi,
pas
ça
mal,
va bien
Kevin. Nous, toi, tu n'es pas vacciné, Kevin. Est-ce que tu es prêt à le faire? Tu as entendu le président hier?
Ouais, j'ai entendu, ouais, bah, c'est bien, il est gentil. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, déjà, j'ai pas d'argent pour aller au ciné, pour aller au resto, pour aller au théâtre.
Ouais.
Donc, en fait, que je puisse pas y aller, bah.
Ça change rien.
C'est pas grave. Voilà, ça change rien. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est, plus ou moins long terme, pas pouvoir aller faire les courses. Bon, bah, c'est pas grave, hein. J'irai au drive ou je me ferai livrer. Voilà, mais moi, ça me plaît pas du tout le fait qu'on nous demande, enfin, il y a un contrôle effectué à ce niveau-là. Je pense qu'on devrait avoir le droit justement de garder nos libertés. Il y a les gestes barrières qui font très bien leur effet. Ensuite, ce qui me fait mais vraiment halluciner, c'est pour ça que je rejoins Monsieur Sebag, c'est que pour contrôler les gens qui ne font rien, les bons cotisants. Vous savez, on nous retire plein de choses sur notre fiche de paye, etc. Pour être contrôlé et pour nous mettre des douilles, il y a du monde, il y a des idées. Par contre, pour un contrôle aux frontières efficace, il n'y a que dalle. Un contrôle au niveau de la fraude à la sécu, il n'y a que dalle. Non, mais voilà ce que je veux dire. Alors, je déborde un peu sur le sujet.
Non, c'est le même sujet, t'as raison.
Voilà, mais ce qui m'énerve, c'est que, voilà, alors le coronavirus, je ne le nie pas, oui, effectivement, c'est une maladie, etc. Après, bon, bah voilà, il y a...
Oui, mais Kevin, il se trouve que je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur le contrôle aux frontières. C'est vrai qu'on n'a pas fait...
C'est une blague, quand même, le contrôle aux frontières. Absolument. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils resserrent, il ne se passe jamais rien.
Il ne se passe jamais rien. Mais pardon, Kevin, je suis comme toi. Moi, cette idée de passeport sanitaire, au quotidien, ça m'agace. Et je peux même dire, comme Alexandre, que c'est attentatoire à nos libertés. Mais comme l'était le confinement, comme l'était le couvre-feu, comme l'est le port du masque obligatoire dans certains endroits, tout ça, je suis comme tout le monde, j'en ai marre. Sauf que, il y a une façon d'en sortir. Il faut aller se faire vacciner. Et quand tout le monde sera vacciné, toutes ces mesures que tu juges à juste titre ou légitimement liberticides, elles seront abandonnées. Donc qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez, vous, ceux qui n'êtes pas vaccinés, pour aller vous faire vacciner?
Négatif, c'est pas juste passager.
Ah, vous si, savez, la TVA, si, quand on sera être... quand on sera tous vaccinés, on n'aura plus besoin de ces mesures, hein.
Laurent, je vous assure, je suis pas d'accord avec vous, mais je vous ai déjà vu, vous êtes quelqu'un bien, on a bien déconné. Mais franchement,
ah bon,
ouais. Mince. Ah oui, on s'est déjà vu. Hein.
Oh, on s'est vu où?
Ah, on s'est déjà vu lors des 30 propositions.
Ah ouais, exact, je me souviens.
Du moment que c'est pas dans un restaurant clandestin, tout va bien.
Non. C'est pas là où tu peux
quelles sont vos réticences à la vaccination?
Alors, mes réticences à la vaccination, j'ai fait une réaction allergique au BCG. Vous voyez? Et, je suis allergique à un certain adjuvant. Vous voyez? Ça, c'est un peu plus.
Alors, je vais vous rassurer de ce côté-là. Le BCG est un vaccin vivant. Dans les vaccins ARN, puisque vous êtes jeune et vous avez moins de 55 ans, il n'y a pas d'adjuvant. Il y a effectivement eu des problèmes allergiques, mais vraiment sur des gens qui étaient très, très allergiques et qui se baladaient avec des seringues d'adrénaline quand ils faisaient une crise. Donc, ça a été, et on les gardait un quart d'heure, 20 minutes et les choses se passaient très bien. Donc, si c'est vraiment la raison, je tiens médicalement vraiment à vous rassurer de ce côté-là. Et moi, j'aimerais que vous fassiez vacciner. Même si vous n'avez pas d'argent pour aller au cinéma, vous pourrez aller voir les copains, aller un peu partout. Vous allez revivre, je vous assure, vous allez revivre quelque part.
Mais vous êtes mal tombé sur moi parce que j'aime pas les gens. Mais
alors plutôt confine, Kevin.
Mais le souci.
J'aime pas les gens. Non, mais j'adore ton test.
Alors,
ton honnêteté.
Le confinement, ça vous.
Monsieur le misanthrope, vaccinez-vous.
Non mais alors moi c'est pareil, il y a un petit quelque chose qui me dérange, c'est que le vaccin, je suis pas contre les vaccins, j'ai été vacciné contre la fièvre jaune, je suis vacciné contre le tétanos, etc. Je suis pas non plus totalement totalement hors de ça. Ce qui me pose le problème, c'est que par exemple il y a des traitements. Alors je vais pas parler de Raoult, etc. Mais il y a des traitements, vous savez très bien, qui sont quand même, comment dire, préventifs. La vitamine B, l'ivermectine, etc. Enfin bref, il y a différents produits quand même qui ont été étudiés. Et on n'a pas, je pense, à mon goût, on n'a pas assez accès, enfin on n'a pas mis assez d'efforts aussi là-dessus, sur un traitement. On s'est vraiment focalisé sur un vaccin. Alors,
mais vaut mieux ne pas être malade. Hein.
Non, mais c'est quand même la solution. Pourquoi tu préfères un médicament, un traitement préventif à un vaccin? Un vaccin, c'est quoi sinon un truc préventif? On te vaccine, comme ça tu n'attraperas pas la maladie.
Ouais, mais pourquoi on fait pas un traitement préventif?
Mais quelle est la différence?
Ça s'appelle le vaccin, non?
Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas?
Parce que pour le moment, on n'en a pas trouvé.
Je peux vous assurer qu'on cherche. Hein. Je peux vous assurer qu'on cherche. Vous avez raison sur le traitement. Vous savez, c'est la différence avec le sida. Le sida, on a découvert, mais il a fallu 13 ans pour trouver des antirétroviraux extrêmement efficaces. Ça a modifié quand même le profil de la maladie, mais on n'a toujours pas de vaccin après plus de 40 ans de découverte. Eh ben, la Covid, on a trouvé un vaccin très rapidement, on n'a toujours pas de traitement. On les a essayés, je peux vous assurer. L'ivermectine, je connais par cœur. On a même essayé le plaquénil, donc l'hydroxychloroquine. Mais on aurait tellement voulu que ça marche. Mais attendez, on aurait tellement voulu que ça marche. Malheureusement, ça marchait pas. Alors la vitamine D, vous avez raison, ça donne quelques signes, mais c'est pas quelque chose de préventif comme l'est le vaccin.
En tout cas, Kevin, il a trouvé un traitement préventif et va s'autoconfiner puisqu'il aime pas les gens. Donc il va être tranquille, pas besoin d'aller au resto. Merci Kevin d'être venu débattre avec nous dans Neumann le Chip. Dans un instant, on va écouter Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui est en train de s'exprimer sur la quatrième vague qui est déjà là, selon lui. On vous attend, vous, au 32-16 pour parler des contrôles d'identité qui vont avoir lieu avec le pass sanitaire. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chypre. RMC, midi 14h. Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann le Chypre, on est ensemble jusqu'à 14h. Passe sanitaire au restaurant, dans le train, au cinéma, dans les commerces. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent? Pour Laurent Neumann, c'est oui, c'est provisoire jusqu'à ce qu'on atteigne l'immunité collective. Pour Alexandre Devecchio, non, le flicage va trop loin. Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, est toujours avec nous. Et je vous propose d'écouter Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il est en train de s'exprimer. Il justifie à la sortie du Conseil des ministres les décisions d'Emmanuel Macron d'hier soir.
La quatrième vague pourrait avoir commencé. Ce n'est plus un risque, c'est une réalité. L'épidémie reprend dans notre pays, elle reprend vite, et c'est pourquoi nous prenons des décisions supplémentaires dès à présent. Nous agissons vite pour prendre l'épidémie de court. Nous agissons tôt pour que cette vague ne nous submerge pas. Au niveau national, le taux d'incidence accélère sa remontée. En une semaine, il a progressé de plus de 60% et il s'approche du seuil d'alerte.
Lisa Marie, quelle est la première tendance des votes?
C'est très tranché, vous êtes 70% à répondre non, vous n'êtes pas prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent.
Et pourtant, il va falloir s'y faire, puisque le pass sanitaire va devenir obligatoire.
Il me reste quoi? Il me reste une demi-heure pour les faire changer d'avis.
Eh bien, c'est ça, ça sera ton défi, Laurent Neumann. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16.
On est avec Damien, qui nous appelle depuis Paris, qui est commerçant. Bonjour Damien.
Bonjour, bonjour.
Salut Damien, est-ce que tu es prêt, toi, à faire la police devant ton magasin? Qu'est-ce que tu vends?
Eh ben, moi, je vends des vêtements, donc je suis dans le prêt-à-porter.
Ouais.
Bah donc, t'es pas concerné,
en fait,
si
moi, je suis tout simplement, comme on m'a toujours appris, c'est chacun son métier. Donc moi, je suis pas du tout prêt pour le flicage, c'est pas mon métier, c'est pas à moi de le faire. Moi, je pense surtout que c'est pour éviter aux policiers de faire plus que leur propre travail, en fait.
Non mais Damien, attends, je t'arrête. Toi, t'es pas dans un centre commercial?
Si.
Ah, d'accord.
Et dans un des plus gros de France.
Ah, d'accord.
Et je peux vous expliquer, et je peux vous dire, ayant vu que ce soit première vague, seconde vague ou troisième vague, que ce soit les gestes barrières ou quoi que ce soit, que ce soit les centres commerciaux, donc les plus gros patrons qui tiennent ces centres commerciaux-là, n'ont fait aucun geste barrière.
Et alors,
il n'y avait pas de gel à l'entrée, il n'y avait pas de masque proposé, il n'y avait rien.
De toute façon, pardon, tu m'arrêtes si je me trompe, Damien, c'est pas toi, propriétaire de ton magasin, qui va organiser ce contrôle. Ça va être fait à l'extérieur du centre commercial.
Alors, justement, j'attendais justement cette question-là. Comment se fait-il que lors du dernier confinement qu'il y a eu, que tous les policiers rentraient dans nos propres magasins pour nous demander justement de contrôler les jauges?
Ah, magasin par magasin.
Magasin par magasin.
Ah oui.
Donc, au bout d'un moment,
ça se tient.
Moi, je pense.
Non, mais attends, ceux qui vont contrôler l'entrée avec le pass sanitaire, c'est pas des policiers.
Véran a été clair ce matin. Il a dit quand on est restaurateur, mais je pense que c'est la même chose quand on est qu'on tient une boutique, on doit vérifier que ses employés tous les matins soient et bien ce pass sanitaire.
Voilà, donc oui,
effectivement, on demande aux gens de se substituer à la police. C'est pour ça que je disais que c'était un climat extrêmement malsain, et c'est pour ça qu'à tout prendre, j'aurais préféré rendre la vaccination obligatoire. Ça permettait, encore une fois, à l'État de prendre ses responsabilités à tous les niveaux.
Mais en fait, s'il y a un problème avec le
vaccin, ça permet de se retourner contre l'État.
Bien sûr, c'est à l'État de contrôler son boulot. Parce que s'il y a des effets secondaires, le problème, c'est qu'ils ne sont pas responsables.
Exactement. Là, j'abonde dans votre sens. Ça aurait été rassurant pour tout le monde que l'État prenne ses responsabilités, assume les éventuels effets secondaires.
J'ai un cas particulier. J'ai ma mère qui est atteinte d'une maladie orpheline. Ouais. Une maladie qui n'est pas connue en France.
Ouais.
Qui me dit que le vaccin ne va pas la tuer si je la vaccine?
Je sais pas, il y a un médecin qui est à côté de nous.
Personne ne le sait. Quelle est cette maladie, monsieur, si vous l'avez?
La fibromyalgie.
À ma connaissance, aujourd'hui, c'est pas une contre-indication sur la vaccination.
Alors, on est d'accord. Alors, pourquoi, quand il y a eu la première vague, le premier confinement, qu'on disait que quand il y avait des pathologies, il fallait se faire hospitaliser, qu'on lui a demandé de prendre du paracétamol alors qu'elle était quasiment en train d'étouffer? Je sais pas, moi, c'est des questions que je pose. Hein.
Mais parce que l'époque dont tu parles, il n'y avait pas encore le vaccin, j'imagine.
Ah, mais ça j'en doute bien. Mais donc, dans ce cas-là, entre hospitalisation et paracétamol, il y a quand même un écart.
Bah, je peux pas répondre, moi, je suis pas médecin. Mais du coup, avec une maman autant à risque, j'imagine que toi, t'es vacciné.
Eh ben, moi, je vais finir par aller me faire vacciner. Pourquoi? Parce que sinon, je ne pourrais plus aller voir ma famille, même en France.
Ouais. Bah oui.
En fait, on ne nous oblige pas à faire le vaccin, mais on nous l'incite très, 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 très fortement.
Ah, bah là, oui, c'est bon qu'on puisse dire. C'est tout clair.
Encore une fois, non, mais j'abonde dans votre sens. La vaccination obligatoire, d'abord, a été moins hypocrite, plus courageuse. Moi, j'aime bien les hommes politiques courageux. Et ensuite, en termes de responsabilité, même si moi, je crois que le vaccin est sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça aurait rassuré tout le monde. L'État prenait ses responsabilités en cas d'éventuels effets secondaires.
Bah,
et l'État faisait le contrôle et la police lui-même, sans demander aux citoyens de se substituer à l'État.
Vas-y Damien, puis on va réécouter Gabriel Attal.
Ouais, et moi, j'allais vous dire un truc qui est encore plus simple. Pourquoi, à votre avis, et ça j'en ai parlé avant que Emmanuel Macron fasse son allocution hier, le nombre de personnes qui allaient demander un rendez-vous sur Doctolib, j'en parlais juste avant l'allocution, comme quoi il y allait avoir des heures et des heures d'attente.
Dès l'instant que M. Macron a dit quoi?
Les centres commerciaux, c'est fini, les magasins sont finis, et ben les moutons, ils sont partis.
Il fallait inciter, c'est exactement ce que dit Gabriel Attal, ce qu'il a dit il y a quelques instants, on l'écoute.
L'heure n'est pas à l'obligation vaccinale, mais à l'incitation maximale. Le vaccin, c'est ce qui nous permet de vivre le plus normalement possible. Nous ne pouvons pas nous en passer. Nous refusons de fermer à nouveau commerces et restaurants parce que certains ne se seraient pas fait vacciner. Oui, il y aura une prime au civisme. Oui, les mesures de restriction pèseront désormais davantage sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. Nous l'assumons franchement, car sortir du Covid est un effort collectif.
Pardon, Alexandre.
Incitation maximale.
Oui, je viens de te prendre en flagrant délit de mauvaise foi, pardon. Mais si le gouvernement avait fait le choix que tu préconises en disant obligation vaccinale pour tout le monde. Mais tu serais le premier aujourd'hui à dire quel scandale.
Mais non, il a dit qu'il aimait le courage.
Arrête, quel scandale, c'est liberticide. Là, t'aurais pas parlé d'autoritarisme, t'aurais dit c'est Pinochet, c'est Fidel Castro.
Mais si déjà
j'entends des responsables politiques aujourd'hui qui disent qu'avec le pass sanitaire, c'est l'apartheid, etc.
Ben alors,
si on avait dit obligation vaccinale pour tout le monde, t'aurais été le premier à dire pas un pays.
Je suis très honnête. Je suis contre la vaccination obligatoire. Moi, j'aurais misé sur le travail de conviction. Mais entre deux mots, j'aurais préféré la vaccination obligatoire. Bon, on a écouté Gabriel Attal. Je vous propose de vous citer quelqu'un. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtre et cinéma. Qui a dit ça? C'est Macron, il a changé d'avis. Emmanuel Macron, le 30 avril 2021.
C'est peut-être ça le courage, c'est de changer d'avis.
Mais là, faut le dire. Sinon, on brise la confiance. C'est là où je veux en venir. Pourquoi on en est là? Parce qu'on dit tout et le contraire de tout. La même personne qui a dit jamais, aujourd'hui, le dit et de manière autoritaire, sans faire son mea culpa. Je pense que de l'humilité aurait été préférable et aurait permis d'être beaucoup plus efficace pour inciter les gens à se faire vacciner.
Et on est avec Jean Terlon, vice-président de l'UMI Restauration, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour Jean Terlon.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous êtes prêt pour faire les contrôles devant les terrasses, devant les entrées des cafés, devant les restaurants?
Bon, moi, mis à part, on ne va pas parler du problème de fond, bien sûr que la vaccination, c'est obligatoire pour que les gens se protègent individuellement, mais nous, notre problème dans la restauration, c'est qu'une fois de plus, on nous met devant un fait accompli extrêmement rapidement, en sachant que techniquement, tout est impossible. Tout est impossible on va perdre 60% de clients qui ne sont pas vaccinés pour l'instant, qui n'auront pas le temps de se vacciner à temps pour finir la saison du mois d'août. Donc techniquement, une fois de plus, comme au mois de mars, on nous a fermé en 4-5 heures, on nous prévient hier que malgré les réouvertures, les terrasses qui sont formidables où il n'y a pas de virus, maintenant, ça redevient des endroits stigmatisants avec des contaminations possibles.
Donc, il va y avoir un problème de personnel, en fait, Jean Terlon.
Ah, mais il y a déjà un problème de personnel. Donc, hors de question, bien évidemment, d'employer, parce qu'on n'en a pas les moyens, des personnes pour contrôler. Ça demande un travail supplémentaire là où il manque déjà de la main-d'œuvre et qu'il manque déjà des serveurs, des cuisiniers. Tout le monde en parle et c'est ce que vivent tous les professionnels en ce moment, parce que les gens ont vécu pendant le confinement une réflexion sur leur vie privée, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui l'ont quitté, notre métier. Donc là, on en rajoute une louche encore dans le millefeuille, et le millefeuille devient totalement indigeste. Donc la rapidité dans laquelle on nous informe hier que dans 15 jours, et pourquoi pas 15 septembre, pourquoi les restaurateurs et les autres secteurs sont stigmatisés dès le mois d'août, alors qu'on va donner du temps au personnel soignant, c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre. On pourrait faire la même chose. D'ailleurs, je conteste, je m'étonne, il va sûrement y avoir un problème au niveau des lois, parce qu'on va se retrouver avec des catégories qui ne vont pas être identiques devant la loi. Et je pense que le Conseil d'État va sûrement pas aimer le sujet.
Jean Terlon,
jusqu'au 15 septembre.
Ouais, on va voir ce que vont dire et le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Mais pardon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais me faire l'avocat du diable quelques instants. Vous faites partie, les restaurateurs, les cafetiers, des professions qui ont sans doute été le plus aidés en Europe et même dans le monde. Je peux pas vous laisser me répondre ça. Il y a des tas de pays dans le monde où on a fermé, où on les a pas aidés.
Oui, mais tant mieux. Mais
donc aujourd'hui, on vous demande. Aujourd'hui, pardon, et je vais faire l'avocat du diable jusqu'au bout. Oui. Aujourd'hui, on vous demande de l'aide. On vous demande de participer à l'effort collectif de vaccination.
Mais monsieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. On participe à tout ce que vous voulez. Simplement, vous pourrez quand même admettre que la méthode, comme d'habitude, elle est expéditive et rapide.
Je vous l'accorde.
Si on nous avait expliqué avant la saison ou à la réouverture des terrasses que nous allions arriver au mois d'août avec un pass sanitaire, que tout le monde se prépare à avoir un pass sanitaire, que tout le monde indirectement, là, on est sur l'obligation de se vacciner. Il n'y a pas, voilà, on tortille du cul, excusez-moi, mais c'est ça le sujet. On est obligé de se vacciner. Bon, très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Le pass sanitaire, on n'y a pas de souci. Simplement, il faut nous prévenir. Donc, à partir de l'ouverture des terrasses, qui était un endroit qui, a priori, maintenant redevient un endroit contaminant alors qu'il n'était pas, il faut juste nous prévenir. C'est
donc, vous allez négocier avec votre ministre de tutelle pour obtenir des délais.
Mais la négociation, quand le problème, c'est qu'il faut négocier avant, c'est un homme politique, c'est prévoir. C'est pas
gouverner, c'est pouvoir.
Dans 15 jours, vous allez faire un truc qui est impossible.
Oui, monsieur, vous avez raison, ça a été très rapide, mais c'est vrai que la multiplication de ce virus va très très vite aussi, il fallait prendre des décisions. Et là où je vous donne raison, et je l'ai dit et je l'assume complètement, c'est les terrasses. On a répété en permanence que le risque à l'extérieur, en particulier sur les terrasses, il était quasiment nul. On a les chiffres de contamination. Oui. Et j'avoue, comme médecin, ne pas comprendre, si vous voulez, le fait de contrôler les gens au niveau des terrasses.
Eh oui.
Autre chose sur le contrôle, effectivement, vous avez raison, qui va contrôler. Alors, moi, je sais qu'il existe un certain nombre de machines, pas très 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 chères, en particulier pour peut-être les grands établissements, les centres commerciaux, qui permettraient de détecter, comme quand vous prenez un billet de train, vous mettez votre portable ou le papier qui reconnaît le QR code et vous passez. Et là, ça serait un contrôle automatique qui faciliterait effectivement ce contrôle qui effectivement va poser un problème. Là, on attend l'aménagement de ces différentes décisions, savoir comment ça va être aménagé concrètement dans 3 semaines.
Bah oui, dans 15 jours, on arrive au mois d'août et le mois d'août est un très gros mois. Tous les Parisiens vont partir en vacances et les 15 premiers jours d'août, c'est ce qu'il y a de plus concentré dans les lieux touristiques. Donc je veux dire, là, moi, on conteste. C'est pas qu'on conteste. On conteste rien. On est pour tout ce qui est pour le combat du virus. Faut juste nous arrêter de nous donner des délais aussi courts. C'est pas possible.
Et d'ailleurs, pour tout le monde, parce que ça va être compliqué de se faire vacciner dans des délais aussi courts. Juste un mot pour défendre les restaurateurs par rapport à Laurent Neumann. Moi, je crois pas du tout que vous avez été aidé. Vous avez été indemnisé. Et c'est pas vrai que la France est le seul pays qui a aidé ses restaurateurs. Dans les pays anglo-saxons, où il y a eu beaucoup moins d'aide. C'était 80 à 100% du chiffre d'affaires.
Mais dans les pays latins aussi.
Et dans les pays latins, on les a fait
Espagne,
ouvrir.
Espagne, zéro. Portugal, non, zéro.
À latin, ils ont rouvert beaucoup plus tôt.
Parce qu'il n'y avait pas d'aide.
Ils ont été contaminés.
Allez, ça n'est pas le débat. Merci beaucoup Jean Terlon d'avoir été avec nous. C'est pas facile de recadrer ce débat. Vice-président de Lumi Restauration. Merci à Damien qui était avec nous au 32-16. On vous attend pour parler du pass sanitaire et de l'impact sur les contrôles d'identité. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre. RMC, midi 14h. Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann Le Chypre, le retour, passe sanitaire au restaurant, dans le train, au cinéma et dans les commerces. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent? C'est notre question pour Laurent Neumann. C'est oui, c'est provisoire jusqu'à ce qu'on atteigne l'immunité collective. Pour Alexandre Devecchio, non, le flicage va trop loin. Et vous étiez nombreux à nous interroger sur la question des 12-17 ans. Est-ce qu'ils vont pouvoir quand même aller au restaurant avec leurs parents, là tout de suite, s'ils ne sont pas vaccinés? Eh bien, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a précisé il y a un instant ce qui allait se passer durant cet été.
Le vaccin est nécessaire, sûr et efficace pour les personnes entre 12 et 18 ans. Le pass sanitaire s'appliquera donc bien aux enfants à partir de 12 ans. Pour autant, nous sommes pragmatiques et comme toujours, nous allons faire prévaloir le bon sens. Le nombre d'adolescents ayant reçu un schéma vaccinal complet est aujourd'hui faible et il est évidemment hors de question pour nous de leur imposer à eux et à leurs familles un été infernal en raison du pass sanitaire. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Santé échangera aujourd'hui avec les autorités sanitaires, scientifiques, pour que nous puissions communiquer des règles de souplesse qui permettent de répondre à cette situation.
Je voulais vous apporter un peu de clarté, mais je ne suis pas sûre que ça ait marché.
Non, mais attends, j'espère que Valérie, qui nous a appelé tout à l'heure et qui avait un problème
avec ça. T'as compris quelle allait être la règle? Parce que moi, j'ai pas compris. Hein.
Souplesse. Souplesse.
Qu'est-ce que ça
veut
dire?
On va pas pourrir la vie des familles à cause du pass sanitaire. C'est clair. On va pas.
En particulier pour les enfants.
Évidemment. Du coup, tu vas pouvoir aller voir à Euro Disney et si ta fille de 14 ans est
plus
pas.
Plus personne ne dit Euro Disney.
Ah, Disneyland Paris, si tu préfères. Mais ailleurs, au Futuroscope, par exemple.
Hein,
voilà, ça on dit comme ça encore.
Au Parc
Astérix.
La preuve que les auditeurs ont bien fait d'appeler et de râler, mais c'est qu'un des premiers rétropédalage, je pense, parce qu'on a eu des annonces effectivement brutales. Alors je dis,
je
parle du terme brutal.
Il y a un quart d'heure, tu trouvais ça trop dur. Maintenant qu'on l'assouplit, rétropédalage.
Non,
en fait, je dis
qu'il faut, quand on est président de la République, qu'on s'exprime rarement, même s'il s'exprime beaucoup, qu'on fait une allocution solennelle, il vaut mieux réfléchir avant de parler. Il était évident
que c'était en dépit
du bon sens, et je pense que on va revenir sur d'autres mesures. J'espère que ce sera le cas.
Tu sais ce que disait De Gaulle.
Le docteur Sebag a parlé des terrasses. Je pense qu'on va être obligé d'y revenir. Et je vais vous dire même, je pense qu'on va aller vers. Et je le regrette parce que moi, je pense que l'État en France, c'est sérieux. C'est ce qui bâtit la nation. Mais je crois qu'on l'a vu au régional, il y avait une forme de sécession. Et je pense qu'on va vers un modèle à l'italienne ou à la Corse qui fait partie de la France.
Mais soit
avec
pas
ses spécificités.
Soit pas des obligeants pour les Italiens et les Corses.
Et qu'on va avoir, voilà, on va s'arranger un peu avec la règle cet été en réalité. Il va y avoir des faux qui vont circuler. On va connaître nos restaurateurs qui vont nous laisser rentrer et tout ceci sera appliqué, plus ou moins appliqué, tant mieux. Mais tout ceci manque de sérieux.
Non, mais parce que
toi,
tu pars du principe qu'on fait tout ça pour emmerder les gens. On fait pas ça pour ça du tout. On fait ça pour les inciter à aller se faire vacciner. Je le répète, quand 90% de la population de plus de 12 ans sera vaccinée, tout ça, ça disparaît. Donc allez-y, voilà, c'est tout.
Allez-y pour qu'on puisse changer les sujets des débats. Ça peut être un argument, je sais pas.
Bon argument pour les éditorialistes parce qu'on va devenir fou. Mais là aussi, j'insiste. Laurent Neumann nous dit ça va être temporaire, vous inquiétez pas. Mais c'est ça qui angoisse les gens. On nous avait dit le confinement va éradiquer le virus. Il y aura pas de deuxième confinement. Il y en a eu 3 ou 4. Et aujourd'hui, il y aura pas de passe sanitaire. Il y a un passe sanitaire. Il y aura pas de vaccination obligatoire. Quand est-ce que ça va s'arrêter?
Toi, c'est ce qui est dit. Il faut pas revenir sur sa parole. ensemble. On va au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16. On est avec Noël qui nous appelle de Marignane. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Noël.
Bonjour.
Toi, tu es commerçante et tu ne comprends pas les gens qui râlent du vaccin obligatoire. Même si c'est pas ça, hein, le vaccin obligatoire, c'est une incitation très, 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 très forte.
Bon, bah, écoutez, moi, je pense qu'il faut se faire vacciner, hein, tout simplement. Peut-être pas le rendre obligatoire tout de suite, mais il va falloir y venir. Voilà, parce que bon, c'est la seule façon d'enrayer ce gros problème qu'on vit sur la Terre entière, quoi. Voilà, c'est mondial. Alors bon, il faut être tous ensemble contre le virus. Voilà, alors si le vaccin, c'est la meilleure solution, ben, il faut l'adopter, puis c'est tout.
Ouais, d'ailleurs, j'adore parmi ceux qui déploraient, à juste titre d'ailleurs, au début de la pandémie, l'absence de masques, de blouses, de matériel, etc. Aujourd'hui, on a le vaccin qui nous protège de tout et on ne veut pas se faire vacciner. Je veux dire, c'est quand même
à pleurer. Les gens réfléchissent encore, on ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà. Nous, on est tous vaccinés et on est très contents de l'être. Et puis, moi, j'incite tout le monde autour de moi à le faire. Voilà, on est commerçant, on demande aux clients, on essaie de les convaincre. Voilà, on fait notre petit travail comme on peut.
Toi, t'es à Marignane, Noël, c'est ça?
Oui.
Et parce que j'ai vu qu'il y avait certaines villes de la côte, notamment à Nice, où on avait instauré le label pour les commerçants, pour dire nous ici dans ce commerce, tout le monde est vacciné. Est-ce que tu vas faire ça, toi?
Pourquoi pas? Oui, s'il est sur notre commune, on le fera. Oui. Pas de souci. Nous, on est pour le vaccin, on est pour les masques, on est pour le désinfectant, on est pour toutes les règles à respecter, quoi. Voilà, il faut essayer de suivre aussi. Hein. C'est pas évident.
Tu fais plaisir à Robert, Noël, si tu voyais ça.
Je te rassure surtout, contrairement à l'idée que tu peux avoir, c'est tu es majoritaire. Il y a une majorité de gens qui pensent comme toi.
Ah ben j'imagine, parce que dans ma famille et autour de moi, mes amis. On va dire 90% sont vaccinés et pensent comme moi. Hein.
Madame, comme commerçante, diffusez ce message. Dites-le à toutes vos clientes et clients.
Tout à fait. Ben c'est ce qu'on fait. On le dit autour de
nous. On a besoin de personnes comme vous.
Voilà. Voilà, c'est notre petit travail à nous, de commerçants, de petits commerçants. Voilà.
Merci Noël d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre depuis Marignane. On est avec Jean-Luc qui nous appelle depuis Pibrac. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour à toute l'équipe.
Salut Jean-Luc. Tu es pour...
Un gros bisou à Lisa Marie d'abord.
Ah bah écoute, d'accord.
Attends, pourquoi Lisa Marie?
Elle est à côté de chez moi.
Ah, c'est parce que tu es de Haute-Garonne.
Ah oui.
Connais bien Pibrac, monsieur. J'ai fait mes études de médecine à Toulouse et je connais bien l'église de Pibrac.
Eh ben, gros bisou pour toi aussi, Robert.
Il y a une église, mais une basilique.
Ouais. Oui, là, on fait la basilique, vous voyez.
Et il y a toujours la célèbre pâtisserie-boulangerie à côté.
Oui.
Eh ben voilà.
Mais ça marche à tous les coups, t'en sais rien. Il y a une boucherie aussi, non? Oh là
non,
là, mais
la boucherie est plus loin.
Quel joueur de poker, celui-là. Jean-Luc, toi, tu es pour et contre le pass sanitaire. Comment c'est possible?
Alors, déjà, je suis vacciné.
Oui.
Complet. Enfin, complet. J'ai eu qu'une dose, mais deuxième scène.
Donc, t'as pas besoin de deuxième dose, d'accord?
Voilà, il n'y a pas besoin de deuxième dose. Après, je suis pour. Ben, c'est vrai que c'est mieux d'être vacciné, machin, d'avoir des contrôles. Mais après, là où je suis contre, c'est que, comment dire, comme j'ai dit au standard, tôt ou tard, ça va se répercuter sur les prix. Et donc, c'est toujours le pitchou, enfin, c'est-à-dire le salarié, l'ouvrier qui va payer. Quoi.
Pourquoi sur les prix, explique-moi.
Eh ben, parce que, automatiquement, les petits supermarchés, comme il y a par chez nous, là, pas les très grandes surfaces, je parle des... Les supermarchés en mots, si le Super U, Lidl, machin, et Carrefour Market, ouais, parce qu'il en faut trois.
Ouais, ça vaut
Non, mais je veux pas faire non plus.
Non, de publicité clandestine, tu as raison.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que, comment dire, un chiffre fictif, s'il y a par exemple deux vigiles en temps normal, là, ils vont être obligés de doubler, voire de tripler.
Donc, ça ton inquiétude, c'est que les coûts occasionnés par ces contrôles soient répercutés sur les prix pour le consommateur.
Ah ben moi, je suis persuadé que ça va être répercuté sur le consommateur.
C'est déjà le cas avec le gel. Moi, mon coiffeur, il a augmenté de 7 euros le prix de la coupe depuis qu'il y a le Covid.
Mais attends, on va lui envoyer
avec le gel, les mesures sanitaires et tout. Donc,
Tu t'es plainte, j'espère.
Beaucoup,
Il y a un aspect dont on n'a pas parlé. Le président de la République s'est attribué un satisfecit sur la crise économique et sociale en disant quasiment qu'on en était sorti, qu'on allait vers la croissance, qu'il n'y aurait pas de conséquences sur l'emploi. Je suis, moi, beaucoup plus sceptique. Et ce qui est vrai, c'est que toutes ces nouvelles mesures vont avoir un impact. On est en pleine saison, au moment où les gens ont envie de repartir, de consommer. Les restaurateurs qui ont déjà payé à leur tribu et d'autres, et les cinémas, ça va être encore difficile pour eux. Donc peut-être qu'il faut poursuivre le quoi qu'il en coûte, même si je pense que voilà, c'est des sommes énormes qui ont été englouties. Donc c'est aussi un aspect qu'il faut considérer.
Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre. Un grand merci à Robert Sebag de nous avoir accompagné ces deux heures, infectiologue non mais attends, à la Pitié-Salpêtrière
à Paris. Accompagne. Ça fait depuis deux ans, depuis le début Robert, de la pandémie, il est là.
C'est vrai, Robert, c'est notre médecin préféré. Robert, tu reviens quand tu veux. Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous êtes finalement 61% à avoir répondu non, vous n'êtes pas prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent.
Et voilà, tu n'as pas convaincu. Laurent, on va parler de vin avec Lisa Marie.
RMC, Neumann le Chypre.
C'est bon à savoir.
Lisa Marie, c'est un véritable séisme dans le milieu du vin. Cheval Blanc et Aussonne quittent le classement des vins de Saint-Émilion.
Aussonne. Oui, les deux châteaux les plus prestigieux de l'appellation Saint-Émilion, Cheval Blanc et Aussonne, tu le disais, n'ont pas envoyé de dossier permettant de prétendre au futur classement attendu l'an prochain, en 2022, pour l'appellation Grand Cru. En cause, la trop forte place laissée à l'aspect réceptif et aux réseaux sociaux, au détriment de la dégustation du terroir. Parce que chez Saint-Émilion, pour prétendre au titre de premier Grand Cru ou de Grand Cru, il n'y a pas que la qualité du vin qui compte, il y a aussi l'aspect marketing et la communication des domaines. Par exemple, les placements de produits dans des films ou la présence sur les réseaux sociaux. Les deux propriétés ont donc décidé de tourner le dos au classement des grands crus. Cheval Blanc, c'est le château le plus célèbre de Saint-Émilion, avec LVMH comme actionnaire. Et pour vous donner une idée, une bouteille se vend à plus de 500 euros. Aussonne est moins connu, c'est un plus petit domaine qui cultive la discrétion. La bouteille d'Aussonne est à plus de 700 euros. Les deux châteaux ont donc décidé de jouer seuls leur partition et comptent s'appuyer sur leur notoriété partout dans le monde pour continuer à bien vendre leurs bouteilles.
Oui, parce qu'en fait, en Saint-Émilion, il n'y a que quatre premiers grands crus classés A. Il y a les deux que tu viens de citer. Je crois qu'il y a, de mémoire, il y a Château Pavie, c'est ça. Je crois qu'il y a Château Angélus et les deux que tu viens de citer.
Et Cheval Blanc et Aussonne.
Voilà, que ces deux-là quittent le classement, bah, ça veut dire que ça jette le discrédit sur l'ensemble du classement.
Et la façon dont le classement aussi est fait, finalement.
Bien sûr.
Alexandre, est-ce que tu as déjà bu du Cheval Blanc?
Hélas, non, je ne crois pas.
Ni du Aussonne. Alors que toi, Laurent, tu m'as l'air d'en avoir déjà bu.
J'ai déjà goûté du Château Cheval Blanc.
Mais alors, on me l'a offert, une bouteille à 500 euros, ça...
Énorme.
Non, mais t'as vraiment, tu as bu quelque chose d'exceptionnel, tu as ressenti que c'était exceptionnel.
J'ai bu quelque chose d'exceptionnel. En plus, c'était un cru très ancien. Donc oui, j'ai bu quelque chose d'exceptionnel. Mais personne peut s'offrir ça, c'est impossible. On m'a offert de.
Non, mais te justifie pas. Je te demande juste si c'est exceptionnel. Je te demande pas.
Alors moi, tu sais.
Avec qui et quand c'était.
D'abord, il faut dire la vérité.
Ta caprice de milliardaire, Laurent Neumann.
Moi, je préfère.
J'ai le fisc qui m'appelle Laurent.
Non, moi, je préfère les Bourgognes. Voilà, c'est mon goût personnel, mais je dois dire que Château Cheval Blanc, on est dans l'exceptionnel, c'est remarquable.
Et les deux tiers de ces vins, Cheval Blanc et Aussonne, sont vendus à l'étranger.
Absolument.
Mais donc toi, le fait qu'ils quittent le classement Saint-Émilion, c'est important pour toi. Parce que moi, j'avoue que ça ne me fait rien.
Pour moi, ça ne change pas ce que je pense de Château Cheval Blanc ou de Château Aussonne. En revanche, je pense que ça contribue à discréditer le classement des Saint-Émilion en général. Voilà. Au moins, il n'y a pas ce problème avec les Bordeaux qui sont sur la rive gauche, parce que tous les classements sont totalement figés depuis 1861. Voilà.
On a appris des choses sur le vin. Merci beaucoup, Lisa Marie. On peut retrouver C'est bon à savoir sur rmc.fr et sur nos réseaux sociaux. C'est la fin de Neumann le Chypre pour aujourd'hui. On se retrouve demain midi, 15h, même endroit.